se rebiffe. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité.
Ce soir, dans le Proton se rebiffe, l'emballement du monde. Énergie et domination dans l'histoire des sociétés humaines, de Victor Court, paru aux éditions Éco-Société.
À l'heure actuelle, parmi tous les habitants du monde, les 10% qui émettent le plus de gaz à effet de serre sont responsables de 48% du total des émissions mondiales, alors que les 50% qui en émettent le moins sont responsables d'à peine 12% des émissions globales. Parmi les plus gros émetteurs individuels de la planète, les estimations mettent en avant le 1% le plus riche, composé majoritairement d'Américains, de Luxembourgeois, de Singapouriens, de Saoudiens, etc., avec des émissions par personne supérieures à 200 tonnes d'équivalent CO2 par année. À l'autre extrémité du spectre des émetteurs, on trouve les individus les plus pauvres du Honduras, du Mozambique, du Rwanda et du Malawi, avec des émissions 2000 fois plus faibles, proches de 0,1 tonne d'équivalent CO2 par personne et par an. Ce lien étroit entre richesse et empreinte carbone implique une responsabilité commune mais différenciée, qui sied mal à la catégorisation englobante de l'anthropocène. Sur le plan intellectuel, l'anthropocène est l'un des concepts les plus stimulants du début du XXIe siècle. Il nous pousse tout simplement à nous demander comment l'humanité en est arrivée à cette situation, perceptible au quotidien, d'un désastre écologique et climatique global que rien ne semble pouvoir arrêter. Comment rendre compte de l'évolution de notre espèce depuis l'état de chasseur-cueilleur à celui de force biogéophysique d'envergure globale? Comment se fait-il que l'évolution technique des sociétés humaines ait été si lente pendant des millénaires par rapport à l'accélération industrielle des 200 dernières années? Pourquoi l'activité humaine s'emballe-t-elle autant depuis la révolution industrielle et encore plus depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale au travers de la grande accélération post-1950. Du reste, le concept d'anthropocène est-il le plus pertinent pour nous aider à répondre à ces questions? Faut-il faire d'une humanité abstraite la source vague des ravages en cours? Ne devrions-nous pas être plus précis et imputer ces derniers au capitalisme moderne et à ses acteurs dominants, c'est-à-dire aux quelques individus qui ont introduit dans l'histoire humaine la possibilité inédite d'un anéantissement intégral? Peut-être vaudrait-il donc mieux parler de capitalocène ou même encore de technocène.
Sur Radio Libertaire. Et voilà, le proton se rebiffe, mais alors il a du temps, il met du temps à se rebiffer. Là. Je sais pas ce qu'il
le proton est un peu mou ce soir, mais le proton se rebiffe finalement. Et donc, ce soir, comme vous l'avez compris, nous allons parler de l'excellent livre de Victor Court, qui s'appelle L'emballement du monde, et dont le sous-titre est Énergie et domination dans l'histoire des sociétés humaines. Et je ne saurais trop vivement vous recommander la lecture de ce livre, car il est quasiment encyclopédique. Il fait quand même...
Presque 500 pages, ouais, 450 je crois.
Avec la bibliographie...
Non mais sans, il ne faut pas, parce que sinon ça fait peur aux gens.
Et en revanche, il ne va pas faire du tout peur aux gens, parce qu'il est écrit dans un langage relativement simple. Et il donne des tas d'idées dans tous les sens. Tu as lu énormément de choses, ce pourquoi je ne saurais trop te remercier. Et nous avons... Un petit peu moins fort. Voilà. Ah, oh, c'est beaucoup mieux. Magnifique. Donc, Victor, tout d'abord, tu fais quoi dans la vie, Victor ?
Moi, je suis enseignant-chercheur
ouais.
dans un institut de recherche qui s'appelle IFP Énergie Nouvelle.
Mmh. Voilà. Et donc, tu te préoccupes constamment des problèmes d'énergie.
Essentiellement. Mmh. C'est ma formation d'ingénieur et d'économiste qui me pousse à travailler sur la transition énergétique. Donc c'est un peu le but du livre à la base, hein, c'est de comprendre un peu ce qui se passe en ce moment avec la transition énergétique, vers où on va, quel choix on doit faire.
Je précise tout de suite que je suis un technocrétin affirmé, que je déteste les livres normalement d'ingénieurs et que je crois que j'ai tout compris dans son livre.
Tant mieux.
Donc, mais quand même, on va commencer dur, hein, on va commencer brutal. Par exemple, il y a un moment où, au tout début, dans l'introduction, Victor parle, il utilise une expression étrange, la dépendance téléologique. Alors, ce n'est pas que Victor soit en fait sauvé par Jésus et veuille nous parler de la dépendance théologique. Non, 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 c'est bien la dépendance téléologique. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'est la dépendance téléologique et en particulier le fait qu'elle vient juste après? Tu parlais de l'interprétation téléologique de l'histoire. Mmh. Alors déjà, c'est quoi l'interprétation téléologique de l'histoire?
Ce que j'essaie de... En fait, le début du livre, quand même, l'introduction, je balise un peu le terrain, on va dire.
Mmh. Hein.
J'essaie de dire ce que je vais faire dans le livre. Et puis ce que je veux éviter aussi. Et donc, une des choses que je veux éviter, c'est l'interprétation téléologique, c'est-à-dire l'idée de penser que l'histoire a une fin, qu'elle va vers quelque chose. C'est en particulier l'Occident qui s'est un peu raconté cette histoire-là pendant un moment. Enfin, d'ailleurs, elle continue à le faire. À savoir qu'il y aurait l'histoire des sociétés humaines, ou même l'histoire tout court, ce serait un enchaînement d'étapes.
Qu'elle aurait une direction déterminée.
Qu'elle aurait une direction et qu'elle tendrait vers toujours plus de complexité. Et donc, la société actuelle serait le nec plus ultra et qu'il y aurait même encore plus complexe à faire. Pourquoi pas aller sur d'autres planètes
Habiter sur Mars avec Elon Musk.
Voilà, exactement. On en a tous envie.
Surtout Elon Musk.
Et donc, cette vision-là de l'histoire, elle peut pousser justement à regarder l'histoire sous cet angle, en fait, forcément, et donc à réinterpréter les faits en ne voyant justement que que ce chemin unique qui était tracé d'avance, finalement. Et ça revient à interpréter tous les enchaînements d'événements comme des causes à effet vraiment très déterministes. Donc, je rejette cette vision-là, qui serait l'interprétation téléologique. Par contre, c'est sûr qu'on ne peut jamais... On peut jamais se défaire du fait qu'on se pose des questions sur l'histoire par rapport à un contexte qui est, en ce moment, nous, le contexte notamment de la transition écologique, enfin plutôt de la crise écologique en ce moment, de la crise sociale aussi qu'on vit dans nos sociétés capitalistes soi-disant démocratiques, etc. Et donc forcément, c'est toujours à la lumière de notre temps, finalement, qu'on essaie quand même de tirer de l'histoire de certains...
D'où la dépendance.
D'où la dépendance. On ne peut jamais s'en extraire complètement. On est toujours obligé de comprendre que, voilà, il y a eu... Effectivement, l'histoire a suivi un chemin qui n'était pas déterminé par avance. Il y a eu de la contingence aussi, du hasard qui a... Voilà, mais par contre, on est bien obligé de comprendre que souvent, on réinterprète toujours un petit peu les questions de philosophie historique à la lumière des temps présents. Donc ce serait plutôt la dépendance téléologique.
Magnifique. Alors, ton livre est partagé en trois grandes parties. Est-ce que tu peux nous donner ces trois parties différentes et nous expliquer pourquoi tu as choisi cette division en trois parties?
Oui. Alors, je commence sur le pourquoi. Le pourquoi, c'est effectivement le but vraiment du bouquin, c'est comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là, finalement. C'est-à-dire à cette situation du changement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, de aussi notre confort matériel qui n'a jamais été aussi important, en tout cas pour une certaine partie de la population des sociétés occidentales.
Alors qu'en même temps, les taux de dépression et d'angoisse, en particulier chez les adolescents,
ouais,
accros à leur smartphone, ne cessent de grimper.
Effectivement, qu'on a toujours des gens qui sont aussi dans une misère totale, un peu partout dans le monde. Enfin, voilà, la situation est complexe. J'ai l'impression qu'on traverse une période un petit peu troublée. Les gens ont envie un petit peu de sens, Alors c'est pour ça que c'est ce genre de livre qui retrace toute l'histoire de l'humanité. Il y en a quand même pas mal en ce moment. Il y a notamment eu Sapiens de Harari qui avait très bien fonctionné il y a quelques temps. Bon, en tout cas, moi, ce que je connaissais, c'était les systèmes énergétiques, comprendre à quel point l'énergie avait été importante dans l'histoire. Donc, c'était ça un peu ce que je voulais faire, un livre plutôt sur l'histoire de l'énergie. Mais très vite, j'ai compris, parce que aussi, depuis pas mal d'années, je me suis ouvert à tout un tas d'autres disciplines, à la sociologie, l'anthropologie, etc. J'ai compris que ce qui était intéressant aussi, c'était de comprendre les relations de domination dans les sociétés. Et puis finalement, la relation que l'humain aujourd'hui a avec la nature, c'est aussi surtout une relation de domination. Enfin, avec la nature et avec le vivant.
Alors, justement, tu cites, page 23, tu cites Maurice Godelier qui dit en gros que avant, on réfléchissait beaucoup au rapport avec la nature et qu'en réalité, il faudrait surtout réfléchir au rapport des hommes entre eux dans leur manière soit de coopérer, soit de s'exploiter les uns les autres, dans leur appropriation de la nature. Et ça me semble être une analyse bien plus exacte
oui.
de la situation réelle.
Oui, ouais, j'avais trouvé cette citation de Godelier qui résumait parfaitement ce que je voulais, l'intérêt du bouquin et ce que je voulais faire dans le livre. Donc effectivement, ce que je propose dans ce livre, c'est de refaire l'histoire de l'humanité par le prisme de l'énergie, des systèmes énergétiques, des types d'énergie que l'homme a exploités. Et voilà, pour essayer de comprendre les faits les plus saillants de cette histoire, toujours dans le but d'essayer de mieux comprendre l'état actuel des choses et aussi d'anticiper peut-être un peu vers où on va là, dans les dizaines d'années à venir.
Alors, à nouveau, les trois parties, justement, elles sont divisées par le thème de quelle est la manière principale qu'ont les êtres humains d'utiliser l'énergie, et bien entendu, l'énergie principale que les êtres humains ont utilisée depuis quasiment tout le début de l'humanité, c'est l'énergie solaire.
Ouais.
Alors, tu as donc trois parties. Tu as une première partie qui parle des collecteurs, puis ensuite tu as les moissonneurs, et enfin tu as les extracteurs. Alors, les collecteurs, ça c'est pas compliqué, hein. Ce sont tous ces peuples de chasseurs-cueilleurs. Alors, souvenons-nous, on en reparlera que maintenant, en particulier grâce aux objections qu'a fait David Graeber en utilisant des tas de travaux de ses collègues anthropologues, c'est qu'on s'aperçoit que les chasseurs-cueilleurs étaient aussi parfois des gens qui étaient un peu des agriculteurs. Mmh. Hein, on croyait qu'il y avait une coupure totalement étanche entre l'agriculture et puis le nomadisme des chasseurs-cueilleurs. On s'aperçoit que c'est pas vrai. Puis ensuite, on a donc l'époque des moissonneurs, où là, la révolution agricole a eu lieu dans quasiment toutes les parties du monde. Elle domine la société humaine. Quelles sont les conséquences sociales? Et ta troisième partie, c'est le moment, c'est notre moment à nous, c'est le moment des extracteurs. Et pourquoi extracteurs?
C'était compliqué de trouver un troisième mot qui... Mais bon, on parle de l'extractivisme depuis l'énergie fossile, hein, à peu près. Et puis d'ailleurs, même si on arrête de consommer de l'énergie fossile, c'est-à-dire du charbon, du pétrole et du gaz, on continuera à extraire des métaux, du lithium, du cuivre, etc., pour les technologies dites renouvelables aujourd'hui. Donc, ça me semble être le bon mot. Bon. Juste, si je peux rebondir sur la description que tu as faite de ces trois temps, effectivement, dans mon bouquin, très bonne description. Il y a quand même... Je précise vraiment que c'est des coupures, enfin, comment dire, c'est un découpage de l'histoire qui est quand même un petit peu arbitraire, en ce sens où le passage d'un mode de chasseur-cueilleur à l'agriculture, ça a été extrêmement progressif, comme tu l'as dit. Et d'ailleurs, les gens n'ont pas arrêté pour autant la cueillette et la chasse quand ils ont commencé à faire de l'agriculture. Et de la même façon, nos ancêtres se sont mis à extraire du charbon et du pétrole, ils n'ont pas arrêté l'agriculture pour autant. Et puis, il y en a certains d'entre nous qui continuent de chasser de différentes manières. Donc, il n'y a pas un système énergétique, là, dans ce sens-là, ne supprime pas totalement celui qui était dominant avant.
Je voudrais signaler là-dessus que le livre de Victor Court, donc L'emballement du monde, évite justement une erreur classique sur ce genre de grande synthèse historique. Et qu'on comprend très vite avec un proverbe américain célèbre. Quand tout ce qu'on a, c'est un marteau, tout commence à ressembler à un clou.
Ouais.
Et c'est le vieux problème des gens qui font des grands livres, des grandes synthèses. Ils ont une idée géniale, puis ils veulent absolument que tout rentre dans cette idée.
Ouais.
Alors que l'un des grands charmes de ton livre, c'est que très souvent, justement, tu dis, mais attendez, je vous propose telle ou telle analyse, tel ou tel concept, mais la réalité, c'est quasiment toujours plus compliqué que nos analyses. Nos analyses sont extrêmement utiles. Il faut bien qu'on comprenne le monde. Il faut bien qu'on crée des concepts pour pouvoir réagir sur le monde. N'empêche que nos concepts ne sont jamais absolument précis, net et absolument sans bavure. Alors, pour en revenir à toutes ces pépites qu'on trouve dans ton livre, que tu as su extraire de tas d'autres livres, j'en viens à la page 32, où tu m'as surpris parce que, moi, Dieu sait que j'avais déjà lu plein de choses sur la bipédie, sur le fait que nous, les êtres
humains... Dieu n'existe pas. On est sur Radio Libertaire.
Sans Dieu, sans maître et sans publicité. Et donc, nous avons... moi, j'étais très surpris parce que donc, j'avais lu beaucoup de choses sur la bipédie, le fait de marcher sur deux jambes et non pas quatre. Et puis, je tombe sur ta phrase. En vérité, l'avantage évolutif de la bipédie est probablement lié au concept central de ce livre, l'énergie. Alors là, je me suis arrêté, je me dis, mais qu'est-ce qu'il va me raconter ? Qu'est-ce qu'il va, ce gars-là ? Et la phrase suivante, tout d'un coup, m'a éclairé. La marche bipède des humains demande environ 4 fois moins d'énergie que la marche quadrupède chez les chimpanzés. Alors, tu expliques pourquoi, mais là, tout d'un coup, ça a lancé quelque chose d'assez fabuleux. C'est que grâce au fait que nous dépensons moins d'énergie pour aller très très loin que les quadrupèdes, qui vont plus vite que nous, mais ils vont moins longtemps que nous. Victor, quel est le type de chasse donc que les êtres humains ont développé ?
Ce qu'on appelle la chasse d'épuisement, j'ai découvert ça assez récemment dans la rédaction du livre. Parce que je crois que l'image qu'on se fait de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs il y a 20 ou 30 000 ans, ou 200 000 ans, qu'ils couraient derrière un mammouth avec une lance, et puis ils essayaient de l'abattre, et puis si au bout d'un quart d'heure c'était parfait, ils étaient fatigués, et puis ça s'arrêtait. En fait, la façon de chasser des peuples chasseurs-cueilleurs, c'est pas du tout... Enfin, a priori, c'était pas du tout celle-là, et on le voit dans les peuples de chasseurs-cueilleurs qui ont été observés encore au 19e, 20e. En fait, la bipédie, le corps humain, est particulièrement adapté à la course, non pas au sprint, mais à la course d'endurance. Le guépard, il sait très bien faire le sprint. Il n'est pas bon en course de marathon, et par contre, le corps humain, oui. Et donc, en fait, la façon dont nos ancêtres récupéraient de la viande, chassaient, en fait, c'est en poursuivant un animal pendant
des heures,
jusqu'à ce que lui, justement, n'en puisse plus, parce qu'à cause de son pelage, imaginons un zèbre ou une gazelle...
Les animaux peuvent beaucoup moins bien suer que les êtres humains.
Ils ne transpirent pas. Nous, et c'est, donc ce serait aussi ça qui expliquerait la perte, nous, de notre pelage. C'est justement pour courir pendant des heures, et donc d'un point de vue énergétique, pouvoir dissiper beaucoup de chaleur, qu'on s'est mis à perdre notre pelage pour pouvoir transpirer. Ce qui est hyper intéressant, donc ça j'ai trouvé ça chez Baptiste Morisot, c'est que cette façon de chasser, ça demande souvent, en fait, les chasseurs, ils ne voyaient pas forcément l'animal qu'ils étaient en train de poursuivre, et donc ils regardaient les traces de l'animal. Ils le poursuivaient pendant des heures et des heures, en regardant les empreintes, le passage dans un buisson avec une branche cassée, etc. Et donc ça, c'est super intéressant, parce que ce que Baptiste Morisot, alors c'est pas lui qui a trouvé cette idée-là, il l'a reprise d'un anthropologue américain, mais qui a commencé à comprendre que ça avait été très important pour le développement cognitif des humains, en fait. Parce que lire les traces, ça demande d'émettre des hypothèses. Tiens, le zèbre, il est parti par là, ou il est passé par là, il commence à être fatigué ou pas, suivant la façon dont l'empreinte est enfoncée dans le sol, etc. Et donc on fait des hypothèses, et puis comme on chasse à plusieurs, il faut qu'on discute de nos hypothèses, et puis on n'est peut-être pas d'accord. Donc il y a du débat aussi, etc. Et puis à la trace d'après, on confirme ou on infirme l'hypothèse qu'on avait fait 200 mètres avant, etc. etc.
Donc, bref, en fait, on applique la méthode scientifique.
On applique un raisonnement hypothético-déductif, effectivement, qui est à la base du raisonnement scientifique. Et donc là, moi je me suis dit, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ouais, c'est extraordinaire, parce que là, on arrive à voir la façon dont un système de capture de l'énergie, parce qu'il faut toujours savoir que l'humain ne produit pas d'énergie, il peut juste la capturer, donc soit il mange des plantes qui elles-mêmes ont fait de la photosynthèse, soit il mange des animaux qui eux-mêmes ont mangé des plantes qui ont fait de la photosynthèse en captant l'énergie du solaire. C'est toujours l'énergie du soleil, en fait. Quand on brûle du bois, c'est aussi l'énergie du soleil.
Alors, c'est pas seulement là, l'énergie, hein, mais c'est moi ce qui m'a fasciné dans cette histoire de la trace, etc., c'est que ce serait peut-être l'origine d'un outil humain extraordinaire, le signe. À nouveau, nos langages sont entièrement, totalement des systèmes de signes. Et bien entendu, c'est un très vieux débat chez les anthropologues, les philosophes, les psychologues, tout ce que vous voulez. C'est comment est-ce que les êtres humains ont commencé à utiliser des signes? Comment est-ce qu'ils ont compris qu'on pouvait, quand on doit réfléchir au sujet d'un objet qui n'est pas présent, ou d'un objet qui est trop lourd, ou d'un objet qu'on ne peut pas déplacer ou qu'on ne peut pas modifier, eh bien on peut quand même y réfléchir en le remplaçant par un autre objet qui lui est simplement un signe dans notre esprit et que par conséquent on peut soumettre à tous les traitements que l'on veut. Et cette hypothèse, donc que ce serait le pistage qui, grâce à l'observation des signes, parce que qu'est-ce que c'est qu'une trace? C'est un signe. Qu'est-ce que c'est qu'une branchette cassée par le passage d'un sanglier? C'est également, on peut l'utiliser comme un signe. Et donc, ceci serait peut-être à l'origine de plus grands instruments de transformation de l'être humain, l'usage des signes. Alors là, pareil, je trouve que tu t'en tires très bien, parce que page 43... Il y a tout un paragraphe où, au début, on se dit, mon Dieu, il nous parle d'abduction, déduction et induction. Alors, on frémit. Et puis, on s'aperçoit qu'en fait, c'est très simple. Et tu nous permets de comprendre ceci de manière très, très claire. Je crois que là, ton côté ingénieur a été tout à fait utile à la compréhension de ce qui se passe. Alors, en revanche, pour continuer juste un petit peu sur l'énergie, à un moment, tu nous parles de la cuisson.
Ouais.
Alors, parle-nous de la cuisson, de l'énergie et des intestins.
Donc là, super. Là, très, très... Enfin, pareil, élément très important. Je pense que peu de personnes ont ça en tête, mais en fait, le fait d'avoir utilisé du bois pour faire le feu, alors ça a permis le feu, comme ça a permis plein de choses. Ça a permis de se protéger des prédateurs, de s'éclairer, etc., de discuter autour du feu, peut-être justement de la chasse de la journée. Mais surtout, ça a permis de cuire les aliments. Bon, alors on se dit, bon, bah, très bien, effectivement, la viande cuite, c'est meilleur que la viande crue. Bon, mais en fait, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là parce que...
Est-ce que je peux lire le
petit... Bien sûr.
Alors, voilà ce qu'il écrit. La cuisson des aliments attendrit... Alors, en parlant la cuisson des aliments attendrit leur peau et leurs autres enveloppes. Ouvre leurs cellules, ce qui facilite l'activité des sucs digestifs, rend les protéines et les grosses molécules d'amidon plus digestes en les simplifiant, tue les bactéries et rend de nombreuses toxines inactives. De manière générale, la cuisson transforme la matière organique en aliments nourrissants et appétissants, alors qu'une nourriture crue peut être difficile ou impossible à digérer et même potentiellement mortelle. La cuisson des aliments, en plus d'élargir la gamme des aliments consommables, par la détoxification de plantes, le ramollissement de graines, la stérilisation de la chair et des tripes du gibier, permet donc une pré-digestion à l'extérieur de notre corps, notamment par une décomposition chimique de l'amidon et une dénaturation des protéines. Donc on voit à nouveau que c'est à la fois un ouvrage très sérieux, mais que le langage est parfaitement accessible.
Ces rêves sont des éclats du passé non résolu. Ils éclairent unilatéralement des moments autrefois vécus dans la confusion et le doute. Ils font une publicité sans nuance pour ceux de nos besoins qui sont devenus sans réponse.
Au commencement fut le mouvement, tous les atomes se soulevant comme sous la houle ou le vent. Le grand boom dans le cosmos, le choc pose des remous dans l'espace et le temps. Le néant laisse place à un écroulement. À l'aube des temps fut la matière, les atomes qui s'allièrent, formèrent le gaz et la pierre, qui s'agrègent de mille manières, mille planètes qui s'éloignèrent, entre Andromède et la Voie lactée, Jupiter et la Terre. L'oxygène se mélangeant à l'océan primitif, le plancton se multiplie, le vivant est inventif. La première dans l'atmosphère, la couche d'ozone est formée. Des formes de vie se diversifient, la Terre peut être apportée. Le lichen sutifère, derrière la vie prolifère, mille formes de vie viennent s'interconnaître entre elles et diffèrent. Des espèces apparaissent, certaines s'éclipsèrent. Il y a 200 000 ans, les humains se nichèrent parmi les mammifères. Parmi les mammifères, depuis l'avènement des océans, depuis que le monde est bon, depuis que le vivant est opérant.
On se défend comme l'indigène face au conquérant, vivant face à l'inerte et démuni face au possédant. Depuis l'avènement des océans et jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, jusqu'au néant. On se défend comme les salariés face aux gérants, les sujets face aux tyrans et les petites gens face aux géants.
Au jour d'après vient le désastre, l'homme s'érige contre la nature, stresse contre les astres, contre les puissances du vivant dont il est constitué. En elle il puis sans cesse et sans soucier de leur restituer. C'est l'avènement de l'élevage, la guerre aux autres fait rage. Le féral se fait rare, se fait rare poussé dans les marges. Le domestique fait loin, le sauvage est à l'étroit dans des cages. L'homme déploie l'artifice pour sélectionner des bêtes sages. Tout ce qui n'est pas docile nous est hostile. Les nuisibles sont au nid, on domine, c'est notre style. De rapport aux autres formes de vie qui sera désormais possible. Nos cibles sont pourchassées au seul motif qu'elles n'ont pas le profil. On opprime les autres pris dans le même écosystème et estime qu'on produit le vivant, se l'approprie même. Sans l'homme qui gère de là-haut, la nature c'est le chaos. On exploite les plis jusqu'au désastre et puis ciao. Et puis ciao.
Depuis l'avènement des océans, depuis que le monde est monde, depuis que le vivant est opérant. On se défend comme l'indigène face au conquérant, vivant face à l'inerte et démuni face au possédant. Depuis l'avènement des océans et jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, jusqu'au néant. On se défend comme les salariés face aux gérants, les sujets face aux tyrans et les petites gens face aux géants.
Au dernier jour, le vivant se bat jusqu'à son dernier souffle. La vie meurt mais ne se rend pas. Les êtres lambda et les voix qu'on n'entend pas de ceux d'en bas. Ce qu'on voit faire les 100 pas dans leur cage et attendent le combat. Pour eux, ce monde-là, c'est l'homicide à base de pesticides. L'animal humain mène au vivant une guerre fratricide. V'là le suicide, ipsi l'arbre ou l'état suicide. Plus même du spay à crédit comme il n'a pas liquide. On n'est pas prêt de signer l'armistice. Les intimistes, là où la vie est promise à l'artifice. Face à mille vices que déploie le capitalisme, il semble que le vivant se débat et se bat contre son sacrifice. Si la désolation règne, on connaît les solutions. La fin de l'élevage et l'ensauvagement à profusion. Que fleurissent les forêts laissées en libre évolution. Tout ça n'aura de résolution que par la révolution. Par la révolution.
Depuis l'avènement des océans, depuis que le monde est bon, depuis que le vivant est opérant. On se défend comme l'indigène face au conquérant, vivant face à l'inerte et démuni face au possédant. Depuis l'avènement des océans et jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, jusqu'au néant. On se défend comme les salariés face aux gérants, les sujets face aux tyrans et les petites gens face aux géants. Depuis l'avènement des océans, depuis que le monde est bon, depuis que le vivant est opérant. On se défend comme l'indigène face au conquérant, vivant face à l'inerte et démuni face au possédant. Depuis l'avènement des océans et jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, jusqu'au néant. On se défend comme les salariés face aux gérants, les sujets face aux tyrans et les petites gens face aux géants.
Pourtant, tout équilibre existant est remis en question chaque fois que des hommes inconnus essaient de vivre autrement. Mais toujours ce fut au loin. On l'apprend par les journaux, par les actualités. On reste à l'extérieur de ceci. Comme devant un spectacle de plus, nous en sommes séparés par notre propre non-intervention. C'est assez décevant quant à nous-mêmes. À quel moment le choix a-t-il tardé? Quand l'occasion a-t-elle été manquée? Nous n'avons pas trouvé les armes qu'il fallait. Nous avons laissé faire. J'ai laissé faire le temps, j'ai laissé perdre ce qu'il fallait défendre.
La nuit des temps, la nuit des temps par l'inconsolable.
Nous sommes toujours sur Radio Libertaire, 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu, sans maître et sans publicité. Nous sommes toujours dans le Proton se rebiffe et nous discutons l'excellent livre de Victor Court, L'emballement du monde. Énergie et domination dans l'histoire des sociétés humaines, ça a été publié par une maison d'édition québécoise, excellente, Éco-Société. Alors, on en était à discuter des bénéfices de la cuisson, les êtres humains. Il y a de plus en plus de choses dont on découvre que les animaux le font aussi, mais enfin, pour l'instant, la cuisson, quand même, ça reste quelque chose.
Il n'y
a que nous. Ouais, d'accord.
Oui, les outils, par exemple, on n'est pas du tout les seuls à avoir des outils. Il y a plein d'animaux qui se servent de bouts de cailloux pour couper des noix, etc. Mais en tout cas, la cuisson, a priori, c'est ce qui nous différencie des autres espèces. Et donc, effectivement, on ne se rend pas compte à quel point ça a été important depuis, grâce à la maîtrise du feu. Alors, la maîtrise du feu, ce ne serait même pas notre espèce, ce serait Homo erectus, ou en tout cas une autre espèce du genre humain avant nous. Mais en tout cas, l'intérêt de cuire les aliments, c'est que ça permet de mieux les digérer, de dépenser moins d'énergie pour les digérer.
Et alors, donc, si on dépense moins d'énergie pour les digérer, cette énergie supplémentaire, qu'est-ce qu'on en fait ?
On la réalloue à l'organe qui est le plus consommateur d'énergie de tout le corps.
Le capitaliste du corps humain.
Ouais, c'est le cerveau. Le cerveau, c'est l'organe qui, par unité de masse, est le plus consommateur d'énergie. Et donc, en fait...
Est-ce que moi, je donne juste le chiffre. Le cerveau, c'est 2% du poids du corps humain et c'est 20% du métabolisme. C'est-à-dire, c'est 20% du glucose que le cerveau bouffe. Il n'y a rien de plus vorace que le cerveau dans notre corps.
Et donc, ça expliquerait que grâce à la cuisson des aliments, donc grâce à la maîtrise du feu, il y a vraiment eu un développement du cerveau humain qui a été possible et en fait qui n'aurait pas été possible sans ça. Donc là, on a un déterminant matériel très important lié à l'énergie, le concept phare du bouquin, qui permet de comprendre un moment, alors j'aime pas trop ce terme, une sorte de saut évolutif de l'espèce humaine.
Effectivement, parce que à nouveau l'histoire des sauts évolutifs, c'est pareil, parce qu'on est toujours avec des problèmes de poules et d'œufs, qui a commencé quoi. Donc, ce qui est beaucoup plus probable, c'est qu'il se passe tout un tas de choses en même temps. Il y a des boucles de rétroaction dans tous les sens et tous les azimuts. Parce que c'est pareil, le feu, il a bien fallu...
Il faut avoir l'idée de
le conserver, de le recréer, d'observer comment il se passe, etc. Donc, ça n'est pas... Et puis, il faut aussi pouvoir copier ce que fait le petit camarade qui a compris comment... Donc, tout ça demande...
Et puis, c'est sûrement pas arrivé à un seul endroit, une seule fois.
Bien entendu.
Le fait que ça ait pris, quand il y a quelque chose qui tient dans le vivant, c'est parce qu'en fait, ça a été testé plusieurs fois, et puis au bout d'un moment, c'est robuste.
Alors, on va continuer un petit peu sur cette énergie des chasseurs-cueilleurs, et en particulier, nous, bon Dieu de moderne, qui sommes obsédés par la crise de l'énergie, eh bien, il semblerait que les chasseurs-cueilleurs, eux, Marshall Salins, lui, qu'est-ce qu'il dit sur les chasseurs-cueilleurs et l'énergie ?
Donc Marshall Salins, qui était un anthropologue américain, c'était le mentor de David Graeber, anthropologue que je cite encore plus dans le bouquin. Ce qu'il a expliqué dans les années 70, même 60-70, c'est que finalement, les chasseurs-cueilleurs, qu'il a encore pu étudier, alors certes, ils ont un niveau de confort matériel qui, par rapport aux standards modernes, est très faible. Par contre, ils ont besoin de très peu d'heures dans la journée pour soutenir ce niveau de confort matériel. Là, ils ont besoin de quelques heures de travail dans la journée. Et en fait, ils ont une quantité, alors là aussi, le mot n'est pas très bon, mais de loisirs, qui est vraiment conséquente. Je dis bien dans le bouquin, à cet endroit-là, que bon, la distinction entre travail et loisirs, ça a du sens un peu pour nous, mais... c'est vraiment des concepts récents.
En particulier, Salins a trouvé une phrase géniale, il parle d'abondance sans richesse.
Abondance sans richesse,
effectivement. Et ça, je trouve que c'est vraiment une excellente idée, parce que la richesse, c'est un boulet à la fois pour tous les gens qui sont exploités, qui doivent créer la richesse des autres, mais parfois même, pour les riches, ça peut aussi constituer un boulet. Alors que l'abondance sans richesse, c'est quand même assez fabuleux. Alors bien entendu... c'est une abondance qui pouvait être éphémère, qui en cas de catastrophe disparaissait. Néanmoins, la démonstration de Salins a vraiment fait changer la mentalité de beaucoup de monde. Alors, parmi les choses qui continuent en ce moment à changer dans la conception qu'on a du passé de l'espèce humaine, il y a également le problème de la naissance de la hiérarchie. Et là-dessus, on a un gros problème. C'est que quand on essaie de dire « Oui, mais alors, la hiérarchie, elle est née à telle époque. » Bon, c'est bien gentil, mais on n'y était pas à telle époque. Alors, à partir de sur quoi on se base ? On se base sur des indices matériels, mais bien entendu, les indices matériels sont par définition incomplets. D'abord et avant tout parce que ce que retrouvent les archéologues, ce sont en général les matériaux qui ont duré. Donc la pierre, la céramique, etc. Les matériaux qui n'ont pas duré, le bois, les tissus, et qui pourraient comporter des tonnes de signes qui pourraient nous donner des éléments d'explication, eh bien ces éléments-là, ils ont disparu. Alors, par exemple, tant Graeber que toi, tu parles de cette ville étrange qui s'appelle, alors j'espère que je la prononce correctement, Göbekli Tepe. qui est donc en Turquie. Et cette ville de Göbekli Tepe, plus ça va, et plus elle recule dans le temps, si j'ai bien compris. Hein. On se dit que ce genre de structure, eh bien, régulièrement, on commence à les repousser. Alors, pour l'instant, selon ce que toi, tu cites, page 69, là, il pâlit, ça serait 9500 ans.
Avant l'ère commune.
Avant l'ère commune, enfin, c'est-à-dire avant Jésus-Christ. Et donc on parle de 11 000 ans avant nous en 2023. Donc ça serait éventuellement la première, sinon ville en tout cas, la plus ancienne, le plus ancien site construit avec des éléments franchement lourds, de grande taille, que l'on connaît sur la planète. Donc on voit que régulièrement, nos idées sur les datations de ce qui s'est passé dans l'histoire humaine changent constamment. Alors, il y a également quelque chose où les anthropologues n'arrêtent pas de se disputer, on le comprend encore mieux parce que c'est encore plus difficile d'essayer de le déterminer, c'est la domestication des animaux. Alors là, à un moment, tu dis quelque chose sur la domestication des animaux qui a été aussi extrêmement intéressante. Je peux lire le passage ?
Vas-y.
Magnifique. D'un point de vue morphologique, la domestication des animaux entraîne généralement une diminution des différences physiques entre mâles et femelles, ainsi qu'une maturation plus rapide, s'accompagnant toutefois d'une rétention de certains caractères juvéniles. Attention, c'est là où ça commence à devenir intéressant. Ce phénomène implique à l'âge adulte une diminution de la taille du faciès et de la mâchoire, ainsi qu'un raccourcissement des molaires. L'ensemble de ces changements augmente l'encombrement de la boîte crânienne et entraîne une diminution de la taille du cerveau. Sur ce dernier point, c'est souvent le système limbique, hippocampe, hypothalamus, hypophyse et amygdale, hein, responsable des réactions hormonales et nerveuses aux stimuli externes, qui est le plus réduit chez les animaux domestiqués. Ce qui engendre, alors là en revanche j'ai mis un peu de temps à comprendre, ce qui engendre une élévation du seuil de déclenchement des comportements d'agression et de fuite. En fait, la phrase elle veut dire que chez les animaux domestiqués, eh bien il y a une modification physiologique à la longue qui fait que les animaux ont moins de comportements, un, d'agression et deux, de fuite. Bref, ils sont beaucoup
dociles.
Et que bien entendu, eh bien ces modifications, ce sont nous les êtres humains qui en sélectionnant quels animaux vont avoir le droit d'avoir des petits, c'est nous qui sélectionnons ces traits. Alors, puisqu'on en vient à la domestication des animaux, passons à la domestication des êtres humains. Et là-dessus, qu'est-ce que tu aurais à nous dire sur la discussion sur la sédentarité ?
Alors, tu as parlé de beaucoup de choses, là.
Oui, ah oui, j'ai été brutal. Là.
Mais t'aimes bien les passages techniques.
Parce que oui, là, parce que je les ai trouvés tellement clairs.
Non, mais là, les gens vont avoir l'impression que c'est un enchaînement.
Ah non, je n'ai pris que les passages les plus techniques, les plus difficiles, parce que là, je suis épaté. Normalement, on devrait se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et en fait, on comprend très bien.
Bon. Alors, ce qui est très important de comprendre, je pense, c'est que la sédentarité, enfin en tout cas le fait que des chasseurs-cueilleurs se sont sédentarisés avant l'apparition de l'agriculture, c'est un préalable, hein, c'est une condition, et ensuite il y a eu l'apparition de l'agriculture, alors que pendant très longtemps on s'est imaginé des chasseurs-cueilleurs qui commençaient à faire de l'agriculture et qui donc ensuite s'établissaient en village sédentaire. Donc déjà on a mis du temps, mais là, maintenant, chercheurs sont unanimes sur le fait que ça s'est passé dans le sens inverse.
Alors, donc, reprenons. Maintenant, franchement, l'opinion chez les anthropologues, c'est que...
Archéologues,
anthropologues, etc., c'est que ça ne s'est pas passé avec, un, des chasseurs-cueilleurs, puis des chasseurs-cueilleurs qui découvrent les charmes de la sédentarité et qui se mettent à être agriculteurs et sédentaires en même temps. En réalité, on a des peuples qui tentent des tas de choses différentes et qui éventuellement mélangent un peu d'agriculture, un peu de nomadisme, de la chasse et de la cueillette, des peuples qui restent strictement chasseurs-cueilleurs. Enfin, il y a un peu toutes les variations.
Et qui peuvent aussi changer au cours de l'année. Ça, c'est un point très important et je vais pouvoir revenir à Göbekli Tepe. C'est que Il y a cette idée, notamment dans le bouquin de le dernier livre de David Graeber et David Van Groh, là, qui c'est le titre en français, c'est Au commencement était. Il se trouve que moi j'avais lu leur article qui avait été publié en anglais, article académique, 3 ans avant, donc j'avais déjà commencé à mettre ces éléments-là dans le livre. C'est cette idée, mais qui en fait, qui était tout à fait comprise parmi tous les anthropologues, Claude Lévi-Strauss, donc au milieu du XXe, de plasticité institutionnelle chez les chasseurs-cueilleurs, et de possibilité de va-et-vient entre des formes plus ou moins hiérarchisées, plus ou moins égalitaires, plus ou moins sédentaires, plus ou moins au cours de l'année, en fonction de l'abondance des ressources, en fonction de est-ce qu'il y a un grand rituel à faire, enfin voilà, d'association de groupe ou au contraire de dissémination dans l'environnement en petites cellules, enfin voilà.
Je t'arrête pour en remettre une couche. C'est vraiment ça, c'est une idée totalement différente de ce qu'il y avait avant.
Oui.
Pendant des décennies, dans l'anthropologie, dans l'archéologie, on était absolument persuadé qu'une fois qu'une société avait un certain type d'institution, elle les conservait toute l'année.
Et c'était verrouillé, quoi.
Verrouillé. Et là, maintenant, c'est exactement l'inverse. Maintenant, franchement, il n'y a quasiment plus de contestation de cette idée qu'au contraire, les sociétés... les anciennes sociétés, les sociétés de chasseurs-cueilleurs, etc., eh bien, changent de forme institutionnelle, le cas échéant, en cours d'année ou en cours d'un certain cycle temporel, quel qu'il soit. Mais les relations de pouvoir, les relations de prestige, les relations d'échange sont infiniment plus flexibles qu'on ne l'a cru pendant très longtemps. Et donc, tu mentionnais à nouveau Göbekli Tepe.
Oui, parce que du coup, donc l'idée, effectivement, donc ça a été ce site qui est assez majestueux. Donc il y a tout un tas de, ce serait les premiers temples de l'humanité. En tout cas, on comprend que
les temples les plus anciens qu'on connaisse.
Ouais. Voilà. Et ça aurait nécessité le travail de centaines voire de milliers d'humains. Voilà. A priori, ce serait l'œuvre justement de chasseurs-collecteurs, parce que c'est trop loin dans le passé pour que ce soit des agriculteurs, en fait. Hein. Donc c'était 9500 avant l'ère commune. Hein,
voilà, donc là, 11 000 ans avant nous.
Oui. Ouais, ce serait le tout début de la domestication des plantes et des animaux dans le Levant là. Donc là, ça se passe un peu au nord en Turquie. C'est a priori, ce serait des chasseurs-collecteurs. Et donc ça, c'est très important aussi de s'imaginer des temporairement, pendant quelques semaines, quelques mois, des structures hiérarchiques peut-être plus fortes, avec un chef, peut-être avec une sorte de police, et puis quelques semaines après, on détruit tout ça, et celui qui était chef, il redevient l'homme lambda, voilà. Et cette plasticité est très, très... Enfin, vraiment, ça a été, je pense, ce livre de David Graeber et David Van Groh, hyper important pour comprendre que nous non plus aujourd'hui, nous ne sommes pas forcément voués à être enfermés dans un certain seul mode, dans un seul type de société. Et il y a toujours eu des alternatives, en fait. Et ça n'est que depuis très récemment que ça s'est verrouillé, en fait.
Alors là-dessus, ce qui peut nous encourager à penser à cette forme de plasticité institutionnelle, c'est tout simplement d'observer notre vie quotidienne. Et de se rendre compte que chaque personne en France, par exemple, dans sa journée, va avoir des rôles sociaux totalement différents. Les rôles sociaux que la personne va avoir, par exemple, dans sa famille, dans un emploi, quand elle a un emploi, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, en tant que citoyenne ou citoyen, en tant que femme dans la rue, ou en tant qu'homme dans un immeuble, ou en tant qu'enfant dans un endroit quelconque, dans une école, en tant que patient dans un hôpital. Et cette plasticité des rôles, eh bien, en réalité, on pourrait, sans si grande difficulté, la transférer comme plasticité institutionnelle, comme plasticité sociale, absolument. Après la pause musicale, on parlera d'un autre problème qu'on commence à identifier avec Göbekli Tepe, on va y arriver, et qui sera celui du stockage, et donc de peut-être l'origine des riches et des pauvres, mais la zizik va frapper.
C'est pas une espèce protégée, y a pas de danger qu'elle disparaisse. Ça se reproduit l'hiver, l'été, ça fait pas trop dans la finesse.
Ça a un cœur qui bat tout rouge, pourtant ça tire sur tout ce qui bouge. De tous les côtés des frontières, ça joue aux soldats, à la guerre.
Ça s'éclate à la guérilla, ça FSB, ça CIA. Du plus profond des millénaires, de l'armée de sang et rivière. C'est une espèce un peu à part, le fruit d'on ne sait trop quel hasard. Un mammifère au sommet de l'évolution. Espèce de... Ça construit des murs à Berlin, Jérusalem ou Tijuana.
Ça peut pas saquer ses voisins. Pour vivre heureux, vivons chez soi.
Ça génocide, ça vocifère, ça apartheid, ça terrorise.
Pour le pouvoir, pour un bout de terre, faut que ça se bastonne, faut que ça se détruise.
Une espèce un peu à part, le fruit dont c'est trop quel hasard. Un mammifère au sommet de l'évolution. C'est une espèce un peu à part, le fruit dont c'est trop quel hasard. Un vertébré un peu timbré, un peu troufion.
Genouille, ça prie des dieux, mais faut que ça zigouille dès que ça peut.
Ça inquisitionne sa croisade, ça colonise et ça djihad. À coup de missile, à coup de roquette, ça va faire péter la planète. L'humanité disparaîtra, bon débarras. C'est une espèce un peu à part, le fruit d'on ne sait trop quel hasard. Un petit bipède au gros cerveau, un vrai champion. C'est une espèce un peu à part, le fruit d'on ne sait trop quel hasard. Un homo sapiens imbécile, un bon couillon. Un singe qui a mal tourné, qui est devenu cro-magnon. C'est le nom d'une espèce guerrière à l'unisson. Espèce de con. Espèce de con. Espèce de con. Espèce de con. Espèce de con.
C'était Espèce de con, vous l'avez deviné, et c'était chanté donc par Frasiac et Jérémy Bosson.
Nous sommes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu, sans maître et sans publicité. C'est toujours le Proton se rebiffe avec Christiane à la technique et un de ces quatre, il y aura même Lulu qui nous dira des tas de choses. Et nous avons comme invité aujourd'hui Victor Court qui a fait un livre fabuleux qui s'appelle « L'emballement du monde, sous-titre « Énergie et domination dans l'histoire des sociétés humaines » publié par Éco-Société, une maison d'édition québécoise. Alors on parlait de Göbekli Tepe, l'une des... Alors c'est peut-être une ville, c'est peut-être un lieu de culte, c'est pas d'une clarté folle, en tout cas c'est l'un des plus anciens lieux construits par l'être humain que l'on connaisse pour l'instant, parce que bien entendu des fouilles pourraient très bien trouver des lieux encore plus vieux. Mais Göbekli Tepe nous fait penser à autre chose. Quand on commence à parler de sédentarité, deux choses arrivent. Tout d'abord, la sédentarité est une condition nécessaire pour l'agriculture, mais pas suffisante. D'abord parce qu'effectivement, on peut avoir de l'agriculture semi-nomade, mais que de toute façon, la sédentarité, ça ne suffit pas pour l'agriculture. Il faut avoir l'idée de planter, de récolter, etc. Mais ça nous amène à un autre problème, un peu plus proche des problèmes qui occupent les anarchistes. Quand on est sédentaire, eh bien, on peut commencer à faire du stockage. Ouh ! Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là avec le stockage ?
Alors ça, c'est Alain Testard, très grand anthropologue aussi, que j'ai découvert il y a quelques années. Malheureusement, lui aussi décédé en 2013. Je pense que les gens...
En fait, il y a une malédiction. Dès que tu lis un anthropologue,
il meurt derrière.
Bon, Victor, tu arrêtes de lire là, tout de suite.
Non, mais Alain Testard, parce que les gens connaissent Claude Lévi-Strauss, ils peuvent connaître Maurice Godelier, voilà, c'est un peu les deux grands anthropologues français. Bon, Claude Lévi-Strauss est vraiment très connu. Personne ne connaît Alain Testard. Alors...
Si, si, à Radio Liberté, on le connaît.
Ouais. Non, enfin, personne. En tout cas, non, mais il est quand même moins connu. Mais il a une œuvre qui est quand même d'une... Moi, je pense qu'il est même peut-être encore plus précis, encore plus fort, encore plus systématique que Lévi-Strauss. Et notamment, il a beaucoup travaillé sur le fait que la capacité de stockage, elle aussi, donc la capacité technique de conserver notamment les aliments pendant un temps très long, ça a été ça aussi une condition, un prérequis à la sédentarité et donc ensuite à l'agriculture, parce qu'il faut pouvoir conserver les grains, etc., pour la saison suivante, enfin, ou pour la saison qui sera moins bonne, l'hiver, bref. Et en tout cas, ce que commence à dire Alain Testard, c'est que ça peut générer aussi de l'inégalité. C'est-à-dire, ça va générer, parce qu'il y a des gens qui auront plus ou moins stocké, il y a des stocks qui se perdent, il y a plus ou moins de succès, il y en a qui accaparent plus, il y a des règles de gestion des stocks qui peuvent émerger, voilà, donc ça peut créer aussi de la convoitise. Donc, a priori, avec les stocks, ça... la capacité de stocker à long terme les aliments, ça pourrait être aussi le début de
l'exploitation.
Ouais, de l'inégalité de richesse et donc peut-être de certaines formes d'exploitation.
Alors, ça nous amène par conséquent à la deuxième partie de ton livre. Donc, on quitte les collecteurs et on arrive aux moissonneurs. Donc, les moissonneurs, bien entendu, ça vient à partir de l'invention de l'agriculture. Alors, attention, ouais. Comme tant d'inventions humaines, hein, par exemple, l'invention de l'écriture, on sait très bien que c'est pas quelqu'un dans un coin, un bonhomme tout seul qui un jour a inventé l'écriture, ça s'est diffusé de partout. L'écriture a été inventée de manière indépendante au moins dans 5 endroits différents. L'agriculture, c'est également très probablement la même histoire. Il y a eu d'abord tout un tas de chasseurs-collecteurs qui ont eu des pratiques plus ou moins agricoles, et puis certains se sont plus sédentarisés. Alors, il y a une première chose, l'un des effets qui a permis la grande diffusion et la maintenance, la perpétuation de l'agriculture, c'est en fait tout simplement que dans les sociétés agricoles, qu'est-ce qu'il y a en plus par rapport aux sociétés, par exemple, de chasseurs-collecteurs.
Effectivement, quand on regarde les conséquences de l'agriculture, hein, les premiers agriculteurs, ils étaient plutôt en moins bonne santé que les chasseurs-cueilleurs, parce qu'ils avaient un régime qui s'était appauvri, qui était fait essentiellement de céréales, qui était moins riche. Et puis, en plus, le fait d'être dans des villages sédentarisés avec des animaux, il y avait plein de maladies. Donc, au début, ils crevaient de tout un tas de trucs.
Mais...
Là, il y a une espèce de paradoxe, on se dit, mais vraiment, quand on lit tous les défauts l'agriculture amène, on se dit, mais pourquoi est-ce que ça a si bien marché? La réponse, c'est que par ailleurs, les agricultrices, il y avait des taux de natalité, enfin des taux de fécondité, beaucoup plus élevés que chez les cueilleuses. Et donc, en fait, la sédentarité et puis le type de nourriture des premiers agriculteurs et d'autres raisons font qu'en fait, les agricultrices pouvaient avoir beaucoup plus d'enfants que les cueilleuses, des chasseurs-cueilleuses nomades.
Alors là-dessus, il y a beaucoup de discussions parce que le fait est incontestable, hein, c'est très très clair. Dans les sociétés agricoles, il y a plus de naissances. Alors, une chose est également relativement claire, c'est que dans beaucoup de sociétés de chasseurs-collecteurs et donc de... Alors, les chasseresses, c'est pas si fréquent que ça, mais on s'aperçoit que, mine de rien, c'est bien plus fréquent qu'on l'a cru. Et donc, il faudrait dire, au strict minimum, des sociétés de chasseurs et chasseresses et collecteuses ou cueilleuses.
De collecteurs, enfin, moi, je pense qu'à mon avis, on découvrira dans quelques temps qu'il y avait aussi des hommes qui s'occupaient de la cueillette. Enfin, c'est clair que sur la chasse, on a eu pendant très longtemps l'idée que c'était les hommes qui chassaient. Et puis là, il y a enfin des études qui sortent. qui analyse des sépultures, etc., avec des squelettes féminins, avec des armes, enterrées avec des armes. Enfin, bon, y a tout un tas d'indicateurs qui montrent que les femmes chassaient, en fait.
Alors, l'une des raisons pour lesquelles les naissances sont donc éventuellement plus fréquentes dans les sociétés agricoles, c'est que dans beaucoup de sociétés de cueilleuses chasseurs, on s'aperçoit que, par exemple, allaiter les enfants, ça permet d'espacer les naissances. Mmh. Et que les allaitements sont donc quelque chose qui est fait de manière très consciente pour espacer les naissances. Alors également, éventuellement, quand on est une société de nomades, quand on est une société, alors peut-être dans l'abondance sans richesse, mais en même temps dans une abondance qui est toujours un petit peu à questionner, on essaie malgré tout de limiter les naissances, parce que les gamins, il faut quand même se les trimballer.
Faut les oui.
Et ça serait l'une des raisons pour lesquelles l'agriculture a pu non seulement se diffuser plus, mais se perpétuer. Mais il y a également, parmi les choses qui sont citées, qui sont très pratiques dans ton livre, c'est quelque chose dont a parlé James Scott. Alors James Scott, on en a déjà beaucoup parlé sur Radio Libertaire, un grand anthropologue, et les céréales aide à fonder l'État. Ah, les salauds de chez Kellogg's. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu pourquoi est-ce qu'on peut faire ce raccourci apparemment brutal, mais en fait pas si brutal que ça du tout. Pourquoi est-ce que les céréales, par opposition aux légumineuses, par opposition aux fruits et aux noix qu'on va cueillir dans la forêt... Et aux tubercules, absolument. Mmh. Parce que là aussi, on se dit, mais attendez, la différence entre les céréales et les tubercules, tu peux m'expliquer. Donc pourquoi est-ce que les céréales particulièrement ont aidé à fonder des sociétés qui sont devenues des sociétés étatiques?
Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que ça n'a pas été automatique, parce qu'entre le plein établissement de l'agriculture et l'apparition des premiers États, il se passe quelques milliers d'années. Donc là aussi, on voit qu'il fallait qu'il se passe des choses. Mais en tout cas, c'est clair que la jeunesse de l'État, ça a quand même fait couler beaucoup d'encre. Il y a beaucoup de gens qui se sont demandés pourquoi est-ce que tout d'un coup, il y a eu ce qu'on pourrait appeler... Alors là aussi, ça se discute. Qu'est-ce que c'est une société avec un État? Qu'est-ce que c'est...
Il y a une longue discussion dans son livre où on se gratte la tête. C'est des rares moments dans ton livre, on se dit, mais non, parce que visiblement... On a toujours du mal à se dire, mais quelle est la définition?
Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de distinction. En fait, le problème, c'est que tous ces phénomènes-là, ils sont toujours continus et qu'arbitrairement, on va dire qu'un État, c'est quand il y a...
Le monopole de la violence légitime.
Ouais, ça c'est Max Weber qui dit ça, mais bon, en fait, ça sous-entend qu'il y a une police, et donc ça sous-entend aussi qu'il y a peut-être une bureaucratie pour lever l'impôt, ça sous-entend qu'il y a peut-être une capitale, qu'il y a un temple, enfin bon, voilà, il y a plein d'attributs, en fait. Qu'il y a une distinction en classe sociale, enfin bon, voilà. Il faut tout un tas d'attributs pour vraiment être sûr qu'on est dans un État. En tout cas, il y a eu tout un tas de discussions sur mais pourquoi ça apparaît. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a un contrat social et qu'au bout d'un moment, les gens sont d'accord pour qu'il y ait un chef? Parce qu'on est trop, on commence à être dans une ville un peu trop dense, il y a des conflits qu'on n'arrive pas à gérer juste entre nous, donc il faut un chef. Et puis le chef, il accapare vraiment trop de pouvoir, et puis au bout d'un moment, il a une clique autour de lui, ça fait un État. Bon, ça pourrait être un peu ça. Ce qui a eu d'important aussi, c'est l'importance des ressources métallifères pour la métallurgie.
Ça permet de faire des épées, et des haches.
Ouais, des outils pour l'agriculture, pour être plus efficace, mais aussi pour un autre passe-temps des humains, c'est de se taper sur la gueule. Donc, effectivement. Donc, a priori, on sent bien que le contrôle des zones métallifères, ça a été super important. En tout cas, c'est toujours là que les premiers États aussi sont apparus. Et puis, par contre, chose que j'ai découvert chez James Scott, c'est que y a toujours les États se sont construits. Il y a des États qui sont construits parce que leur ressource principale alimentaire, c'était soit le riz, soit le millet, soit le blé, mais c'était jamais le manioc, c'était jamais la pomme de terre et c'était jamais la lentille. Alors bon, c'est bizarre. Ben en fait, les céréales, elles ont plusieurs propriétés qui font que c'est hyper facile, notamment de lever un impôt. Et donc d'avoir une classe de bureaucrates qui récolte une partie qui récupère une partie de la récolte justement de céréales, parce que les céréales elles arrivent à maturité, elles peuvent être moissonnées à peu près en même temps, Elles sont visibles puisqu'elles sont en hauteur à l'extérieur, alors que le tubercule, il est sous terre, donc il peut être planqué un petit peu.
Ah, ça, c'est vraiment une idée fabuleuse.
Et puis, il y a aussi la divisibilité, le sens, dans le sens où on peut avoir un gros, je sais pas, une tonne de céréales. Et puis, si on doit payer un ouvrier, hein, les ouvriers étaient payés souvent en rations de céréales. Donc derrière, on peut redécouper à l'infini, puisque c'est des toutes petites graines, cette denrée-là. Et donc, ça sert de précurseur à l'impôt et à la monnaie, en fait. Et on ne pourrait pas faire la même chose avec...
Tu es en train de nous dire que la pomme de terre est révolutionnaire.
Et donc, c'est vraiment... Non, mais c'est vraiment ce que James Cott explique, c'est que les populations qui, elles, ne voulaient pas rentrer sous le joug, enfin, se faire accaparer par un État, étaient tout à fait conscientes de ça, et justement, faisaient en sorte d'avoir plutôt un mode... une subsistance qui était basée sur des cultures qui étaient non appropriables, qui étaient beaucoup plus dures. Ça, moi, je trouve que cette idée-là de James Cott, elle est
fabuleuse.
Vraiment géniale.
Absolument géniale. Alors, on va passer à nouveau... Ça fonctionne bien, là, que je te pose des questions bizarroïdes comme ça. Donc là, je vais t'en envoyer une autre dans la figure. Victor, qu'est-ce qui ronge les empires ?
Qu'est-ce qui...
Alors là, la question, elle vient tout simplement, il y a l'un de ces paragraphes dans qui s'appelle « Constamment rongé de l'intérieur » et où, pareil, Victor reprend tout un tas de livres fort intéressants qui expliquent quels sont les problèmes inévitables auxquels doivent faire face les empires, les contradictions internes qui font que, on le voit dans l'histoire... Les empires se créent, s'agrandissent, et puis...
Se cassent la gueule.
Et puis tous, à un moment ou à un autre, cassent la gueule. Pour l'instant, le seul qu'on n'a pas encore vu se casser la gueule, c'est l'impérialisme états-unien. Mais il est quand même très récent, celui-là, donc il a le temps encore de se casser la gueule.
Et puis, pour certains, il est tout à fait en cours d'affaiblissement aussi.
Absolument, il est très probable
Emmanuel Todd, par exemple.
Voilà, il est très probable qu'on voit maintenant le début de l'affaiblissement de l'Empire américain. Et donc, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ces nécessités que doivent affronter les empires et qui font que ils se cassent tous la figure à un moment ou à un autre?
Alors, c'est vrai qu'une fois que j'ai expliqué un petit peu ce que c'est l'État, on voit bien qu'encore une fois, il faut attendre 2000 ans après les premiers États pour voir les premiers empires. Donc un empire, c'est quoi ? C'est un État qui a une volonté d'expansion vraiment, souvent sous couvert d'une relation un peu universelle, et puis qui a vraiment une volonté d'englober les autres États et les autres populations autour de lui et de les soumettre.
On pourrait dire qu'un empire, c'est un État qui ne veut plus être seulement un État, alors on va dire mono-ethnique, oui. Monoculturel, monoreligieux le cas échéant, mais en tout cas pas ni monoethnique ni monoculturel. Ok, continue.
Et donc en fait c'est déjà cette volonté d'expansion territoriale, de toujours agrandir. C'est toujours des mégalomanes qui ont la folie des grandeurs et qui veulent agrandir les frontières. Et donc il se pose un problème de plus j'ai un territoire qui est grand, et plus il faut que j'ai quelques potentats locaux comme ça qui gèrent le pouvoir un peu localement. Alors il faut qu'il y ait de la loyauté envers moi, l'empereur, mais en même temps, si je leur donne trop de pouvoir, ils peuvent me renverser, faire des coups. Donc, il faut qu'ils lèvent l'impôt et puis que ça arrive jusqu'à mes caisses. Mais alors, si je mets beaucoup d'intermédiaires pour être sûr que l'impôt arrive, que l'impôt soit bien levé, en fait, chacun va se servir. Donc en fait, ce que je décris, en fait, c'est que toutes les stratégies pour faire un État fort, en fait, génère des contradictions internes qui amènent sa propre faiblesse, en fait. Et donc, l'Empire, c'est toujours une structure qui paraît comme ça resplendissante et forte quand elle est plutôt en phase d'essor. Et puis, en fait, elle ne peut jamais stabiliser. Et la stabilisation est impossible pour des raisons qui sont propres à sa nature même et à sa logique même de fonctionnement. Et donc, au bout d'un moment, elle est rongée de l'intérieur par ses propres...
On peut penser à deux cas qui sont à la fois l'Empire romain et la monarchie française, qui se sont cassés la figure. C'est évidemment très compliqué dans chaque cas, mais il y avait quelque chose en commun dans les deux cas. Tu parles de l'impôt. Alors d'abord, on sait que trop d'impôts tue l'impôt, qu'un impôt injuste évidemment, n'aide pas à stabiliser une société, que, comme tu l'as dit, les collecteurs d'impôts sont les pires institutions possibles dans ce type de situation, et en particulier en France, les fermiers généraux, on le sait, eh bien, c'était eux qui pompaient des impôts qui étaient absolument excessifs sur ce que pouvait contribuer le peuple, mais en même temps, ils payaient finalement pas du tout assez pour les dépenses absurdes de la cour française. Et les dépenses de la cour étaient pas seulement par la mégalomanie et la vanité du roi et des courtisans, mais c'était dû au fait que le roi devait constamment essayer d'impressionner, d'intimider les courtisans en se livrant à des dépenses absolument délirantes,
ostentatoires, j'en parle un petit peu.
Voilà. Et à l'inverse, les courtisans, eux, pour maintenir leur propre statut à leurs propres yeux, à ceux de leurs concurrents, voire à ceux du roi, se livraient eux aussi à des dépenses ostentatoires constantes, et c'était une course les uns avec les autres qui n'avait jamais de fin. Pareil pour l'Empire romain, où là, la course a été un petit peu différente. L'Empire romain était un empire dont la structure économique n'était pas vraiment productive, et en réalité, l'Empire romain, il a fait un peu comme l'Empire de Napoléon Bonaparte, c'est-à-dire que l'Empire romain continuait à conquérir des territoires extérieurs pour pouvoir les piller. De même que Napoléon envahissait les pays parce que il pouvait comme ça payer les dettes criantes de l'État français, mais au bout d'un moment,
ça fonctionne. Non, mais ça fonctionne bien au début parce que les nouvelles conquêtes permettent d'amener des nouvelles paires de bras. Parce que ce que je dis bien dans le bouquin, c'est que la richesse d'un empire à l'époque antique, c'était pas tant d'avoir du territoire, mais c'était surtout d'avoir du territoire sur lequel il y avait des agriculteurs pour encore une fois, extraire de l'énergie par l'agriculture. Et donc, quelque part, c'est un peu rassurant aussi. On sait qu'il y en aura d'autres des empires, si le changement climatique n'est pas trop violent avec nous, dans le siècle. Mais en fait, on est certain qu'ils finiront toujours par se casser la gueule. Il faut être patient. Alors, il faut qu'il y ait des rebelles quand même, il faut qu'il y ait de la résistance, etc. Il peut aussi y avoir des barbares, comme on les nommait à l'époque, aux portes de l'Empire, qui eux aussi viennent titiller un peu et affaiblir l'Empire. Et donc, en fait, tous ces facteurs font qu'au bout d'un moment, c'est un petit peu comme avec la chasse d'épuisement tout à l'heure. Quand le chasseur, il savait qu'au bout d'un moment, il allait l'avoir, le zèbre. Il suffisait juste qu'il soit patient. Et surtout pas qu'il essaie de lui courir après trop rapidement. Je pense qu'avec l'Empire, et donc avec l'État aussi, l'État de façon générale, quand on a une structure étatique qui cherche trop à tout contrôler, à tout régir, en fait, au bout d'un moment, elle va en rentrer en contradiction avec elle-même.
Alors tu as une phrase absolument parfaite là-dessus, c'est page 148. « Ainsi, le fonctionnement même de l'Empire le conduit devant une contradiction insurmontable. » La stratégie de contrôle de l'appareil impérial exige des élites précaires. Et parce que comme ça, quand elles sont précaires, c'est bien connu, les précaires, on les contrôle bien. Alors que son fonctionnement optimal demande des élites stables. Et ça, je trouve ça merveilleux comme point final de notre discussion. Avant, un, la pause musicale, et deux, après, les informations du proton grâce à notre LU, je trouve que cette contradiction entre élite précaire et élite stable, elle est absolument savoureuse.
read it in the paper, so I speak. So I know.
Information par les Hungry Cats.
Les chats affamés. Alors, vous êtes toujours sur Radio
Libertaire. Non, non, non. Angry, pardon, les chats en colère, les chats pas contents.
Alors, on est toujours sur Radio Libertaire, la radio des chats pas contents. Également la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu, sans maître et sans publicité, 89.4. On est toujours dans un proton qui a décidé de se rebiffer, avec toujours Christiane à la technique et Lulu qui va nous parler dans pas très longtemps. Nous vous donnons rendez-vous pour le 20 mars parce que le livre de Victor Court, L'emballement du monde, énergie et domination dans l'histoire des sociétés humaines, c'est un livre qui est tellement riche qu'on n'en a même pas parlé pour l'instant du tiers. Alors, on s'est regardé les yeux dans les yeux et on s'est dit, bon, allez, on continue. Donc, on se donne rendez-vous le 20 mars. Mais maintenant, nous allons pouvoir bénéficier...
Je voulais savoir une chose. Victor, puisque c'est toi l'auteur et c'est toi qui a fait ce livre qui est absolument fantastique, on l'a passé aussi, puisque tu es venu aussi dans les Chroniques Rebelles. J'espère que d'ailleurs d'autres émissions, parce qu'il y a matière, vont se saisir du bouquin et vont en parler et t'inviter. Et pourquoi pas Publico, ça serait bien de le présenter aussi. Mais ce que je voulais savoir, c'est comment toi... Parce que c'est une question qui m'intéresse toujours. Pourquoi, comment toi, tu es venu justement à avoir cette réflexion, et cette réflexion petit à petit qui est complètement anarchiste?
Ça s'est fait vraiment progressivement. Moi, à la base, je suis vraiment ingénieur. Je viens d'un milieu bourgeois, donc j'ai été élevé avec des valeurs de droite, desquelles j'ai mis du temps à me départir. Même si mes parents m'ont inculqué l'esprit critique. Donc déjà, ils avaient mis le...
C'est une bonne base de départ.
Mais ça a été des rencontres petit à petit. Notamment au début de ma thèse, j'ai un très bon copain qui, lui, était complètement radical gauche. Et donc, au début, on se frittait beaucoup. Et puis au bout de 2 ou 3 ans, je suis plutôt... Et puis il m'a fait lire 2-3 petites choses. Et c'est vrai que comme je me suis ouvert dans le même temps à d'autres disciplines académiques, parce que je m'ennuyais un peu en économie, et puis en histoire, etc., c'est aussi par l'anthropologie, effectivement. Donc il y a tout un mouvement dans l'anthropologie académique, vraiment des gens qui publient, qui sont très sérieux, mais une anthropologie anarchiste, tout simplement parce que la matière première des anthropologues, c'est essentiellement les sociétés premières, les sociétés sans État, justement. Et donc, mon éveil à ces disciplines et mon éveil politique se sont faits en même temps, donc par l'anthropologie anarchiste. Par exemple, de David Graeber, d'Alain Testard, qu'on a déjà cité.
Alors moi, je suis ravi d'entendre ça, parce qu'il y a quelques temps, enfin, il y a longtemps, en fait, je discutais avec une amie anarchiste, et j'avais dit « Ah, mais l'anthropologie, c'est une discipline super anarchiste. » Elle avait été furieuse, parce que c'est vrai que, historiquement, au XIXe siècle, au départ, l'anthropologie, c'était un truc colonialiste, abominable, pour améliorer la domination. Mais en réalité, maintenant, elle a bien changé, et c'est excellent. Donc, mille merci, Victor.
Merci à vous.
Et nous allons maintenant passer à l'info du proton grâce à Monsieur Lulu.
Les infos du proton.
On va commencer par la noix d'honneur du canard enchaîné, décerné au premier secrétaire du PS, Olivier Faure, pour cette interrogation sur la réforme des retraites. Il déclare « Un gouvernement peut-il gouverner contre l'opinion ?» Vu ses derniers résultats électoraux, le PS, lui, n'a pas à s'intéresser à ces questions de gouvernance, du moins à court terme. Une autre noix d'honneur du canard enchaîné, décernée au député insoumis François Ruffin, pour cette déclaration sur RTL. Il déclare « Je souhaite un adoucissement du pouvoir. Les Français ont besoin de tendresse et de douceur. Et surtout pas de bruit et de fureur, cher à son camarade Mélenchon. » Un mur du son du canard enchaîné franchi à l'huile de coude par la députée Renaissance Maud Brecq-Géon, pour ce coup de gueule sur RMC. LFI a un projet sans travail, sans effort. Une bonne partie des députés insoumis n'ont jamais vu un contrat de travail. Alors que les parlementaires macronistes sont quasiment tous d'anciens ouvriers du bâtiment. Une autre noix d'honneur du canard enchaîné, décernée à l'économiste Bertrand Jacquillet pour ce diagnostic inquiétant concernant les revenus de certains PDG, qui déclare à l'opinion « Des pactages jugés excessifs de rémunération peuvent signaler une déconnexion cognitive. » Une façon inélégante de dire qu'ils ont pété un câble. Le Figaro sonne l'alarme. Un vent d'anticapitalisme souffle sur Polytechnique. Une page d'enquête démontre que certains élèves s'inquiètent plus de l'avenir de la planète que de leurs belles perspectives de carrière. C'est vraiment inquiétant. L'hebdomadaire Le Point s'intéresse au parti d'Éric Zemmour, Reconquête, et s'interroge sur la difficile mue d'un fan club en parti politique. La trajectoire inverse de LFI, en quelque sorte. Le pape François a surpris son public de l'Athénée pontificale Saint-Anselme le 20 janvier en demandant aux prêtres de limiter leur serment à 10 minutes. La Croix explique qu'il ne faut pas confondre l'homélie avec une conférence et ce n'est pas non plus un cours de philosophie, de théologie ou d'exégèse. Les prédicateurs sont prévenus. Un bon tweet et la messe est dite. Jair Bolsonaro, l'ex-président brésilien qui s'est fait la malle en Floride peu avant l'investiture de son ennemi Lula, ne veut plus rentrer au bercail. Il a indiqué avoir demandé un visa de 6 mois pour rester aux États-Unis. En effet, il n'est pas détenteur que d'un visa délivré aux dirigeants en visite, qui a expiré le 31 janvier. C'est la nouvelle blague sur les parcours de golf de Floride. Bolsonaro a peur de finir au trou. Le sénateur Hervé Marseille, président de l'UDI, accuse LFI de transformer l'Assemblée nationale en camp de gitans. Il y manque tout de même quelques diseuses de bonne aventure pour prédire l'avenir de la réforme des retraites et celui du gouvernement. Shakira, star de la pop, règle ses comptes avec son ex-compagnon, le footballeur espagnol Gérard Piqué, dans une chanson publiée sur YouTube. Elle s'en prend au passage à la nouvelle conjointe de son ex-compagnon, Sharia Shia, qui, elle déclare « Tu as échangé une Ferrari pour une Twingo, une Rolex pour une Casio. » Elle n'est pas à la pointe de la lutte contre le concept de la femme objet. Le prince Harry, duc de Sussex, révèle dans son livre le supplément qu'il a connu un problème de santé assez rare et qui a passionné les tabloïds britanniques. Son pénis circoncis a été victime d'engelures en 2011 à l'occasion d'une expédition en Arctique. Douloureux désagrément qui l'empêchait à l'époque d'assister à un événement de la plus haute importance, le mariage de son frère, dont il devait être le témoin. On se légèle dans le duché du Sussex. La contemplation de la voûte céleste deviendra-t-elle bientôt un luxe? Selon le Figaro du 20 janvier, cite une publication de la revue Science, entre 2011 et 2022, le nombre d'étoiles visibles à l'œil nu la nuit a fortement diminué à cause d'une luminosité accrue du ciel nocturne, en hausse de 7% à 10% par an au niveau mondial, en cause le déploiement de nouveaux éclairages publics à base de LED et de l'installation de certains de ces satellites de télécommunications. Pour retrouver la splendeur de la Voie lactée, faut-il lancer un appel à l'aide?
Je veux juste rajouter rapidement,
On en est pour l'instant à 3850 satellites Starlink, c'est-à-dire que le nombre de satellites Starlink a dépassé le nombre de satellites en fonction pour tous les autres pays du monde. Ouais. Et Elon Musk va en lancer 42 000 au total.
Les évêques français seraient au bord du burn-out, comme ne dit pas en latin. On s'imagine pas la solitude extrême dans laquelle certains se retrouvent. Alerte dans Le Parisien. Christine Pedotti, journaliste spécialiste du catholicisme, qui déclare « Cela engendre du désarroi, une crise existentielle ». Par le passé, il a même existé des groupes d'entraide sur les modèles des alcooliques anonymes. Vite, des groupes d'évêques anonymes pour apprendre à ne pas boire le calice jusqu'à la lie.
Pareil, là, je rappelle un site web extrêmement difficile d'accès, qui est un site réservé aux prêtres, aux rabbins, aux pasteurs, etc., qui ont perdu la foi, mais qui n'osent pas sortir de leur église parce qu'ils ne savent faire qu'une chose, c'est être prêtre, et donc ils se parlent les uns aux autres. C'est un site qui a été fondé par le philosophe athée américain Daniel Dennett. Évidemment, mon rêve, ça serait quand même d'aller y faire un tour pour voir ce qui se passe. Allez, c'est tout bon, merci tout le monde. Lundi 20 mars, ce sera à nouveau le proton se rebiffe.
C'est pas fini.
Et non.
Salut.
Salut tout le monde. Ça va finir, c'est juré. Christiane, nous voyons toujours... Oui, nous voyons toujours une petite lumière rouge. Ce sont les...
Je m'en souviens très bien, j'avais presque ton âge. Mon père parlait souvent d'une drôle de guerre qui le fit prisonnier. Au bout d'un long voyage, il le garda 4 ans éloigné de ma mère. Sur ces années perdues, je voulais tout savoir sur ces plans d'évasion qui avaient tourné court. J'aurais dû lui dire d'en écrire les mémoires, de l'heure de la débâcle à celle du retour. N'effacez pas nos traces, tout est écrit dedans. Un jour en passant, ces petits cailloux blancs, nos enfants les ramassent. N'effacez pas nos traces, par-delà les frontières, dans les années 60, résonna de nouveau le mot libération. Les maquis du Vietnam, aux rues effervescentes d'un vieux quartier latin en pleine insurrection. Des hauts fourneaux lorrains, aux carreaux de la mine, la révolte gagna le métro et les gares. 10 millions d'ouvriers occupèrent les usines, et ce fut la plus grande grève de notre histoire. N'effacez pas nos traces, tout est écrit dedans, pour qu'un jour en passant, ces petits cailloux blancs, nos enfants les ramassent. C'est pas SNCF en lutte, halte à la répression, tous unis camarades, les métallos tiendront. Notre arme c'est la grève, et Renaud Flin vaincra. Travailleurs, étudiants, continuons le combat, dénonçant l'injustice, les salaires de misère, dressant des barricades comme les communards. Nous voulions inventer un monde solidaire et nous avions raison, nous les 68 ans. N'effacez pas nos traces, tout est écrit dedans, pour qu'un jour en passant, ces petits cailloux blancs, nos enfants les ramassent. N'effacez pas nos traces, ce sont les souvenirs de ces journées intenses où partout nos espoirs s'affichaient sur les murs qui depuis 40 ans inspirent nos résistances toujours au rendez-vous pour un autre futur. Ce n'était qu'un début. Elle héritera demain. N'en déplaise à certains fossoyeurs de nos rêves qui auraient tant voulu nous voir baisser le poing. N'effacez pas nos traces, tout est écrit dedans, qu'un jour en passant, ces petits cailloux blancs, nos enfants les ramassent. N'effacez pas nos traces, pour qu'un jour en passant, ces petits cailloux blancs, nos enfants les ramassent. N'effacez pas nos traces.
C'était Dominique Grange qui chantait « N'effacez pas nos traces ». Je vous signale justement, puisque nous passons ce morceau, parce qu'en fait, le 21 février, c'est-à-dire demain, il y a au Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, Forum des images, 2 rue du cinéma dans le 1er arrondissement, eh bien, il y a l'avant-première du film « N'effacez pas nos traces » de donc Dominique Grange, une chanteuse engagée. C'est un film de Pedro Fidalgo, et donc c'est à partir de 20h30. Voilà, demain, N'effacez pas nos traces, c'est en avant-première. Voilà, à très très bientôt. Donc là, ben, écoutez le mois prochain pour le Proton, ce rebiff. Au revoir.